Il se pose toujours à un certain moment de la vie le problème de l'éducation. Alors l'éducation de ses enfants, de ses petits-enfants ou des enfants dont on a la charge pour une cause quelconque. Et on aimerait bien avoir un manuel parfait à appliquer et qui corresponde à tous les cas de figure qu'on peut rencontrer parce qu'ils sont souvent nombreux, divers, variés, bien sûr. Cette inquiétude due à cette technique, à cette science ou à cet art de l'éducation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, provient de la diversité justement de ces situations. Il y a l'âge des enfants que l'on veut éduquer, et puis ça change par définition, le caractère de l'enfant ou de celui qui est l'éducateur, il y a l'environnement. Libéral, moins libéral, l'influence de l'Église, beaucoup d'autres informations, d'autres influences qui peuvent arriver. Il y a la mode. Par exemple, on parlera, je le cite, mais on n'en reparlera plus, au contraire, de l'influence de 68 sur les systèmes d'éducation. Et puis il y a l'intention aussi, l'intensité, disons, des relations qui existent entre les personnes. Entre le prof et les élèves, le père et les enfants, et ainsi de suite. Alors Paul est bien gentil, hein, dans Éphésiens 6.1, il déclare tranquillement, enfants, obéissez à vos parents, point à la ligne. Ah ben, moi je trouve que ce n'est peut-être pas aussi simple. Je suppose que Paul n'avait pas d'enfants à élever et qu'il avait peut-être pas réalisé, peut-être que c'était aussi simple de donner une consigne et puis allez-y. L'enfant, d'abord, on se pose la question, est-il capable d'obéir? Doit-il obéir à toutes les consignes que l'éducateur, je veux dire l'éducateur pour éviter chaque fois de parler parents professionnels et ainsi de suite. Alors ça, c'est la première question que je vous pose, hein. L'enfant est-il capable d'obéir et d'obéir à toutes les consignes qu'on peut lui donner?
Eh bien oui, il est capable. Peut-être que pour répondre à cette question, l'étymologie, quelque chose d'intéressant. En français, obéir, ça vient du latin, ob audire, qui veut dire se placer en dessous de ce qu'on entend.
Ah oui.
En obéir en grec se dit up akouo, c'est pareil. C'est se placer en dessous de ce que j'entends.
De
Et
se
donc,
mettre sous l'autorité.
Et donc, je crois que le gros problème des enfants qui n'obéissent pas, c'est qu'ils ont des parents qui se posent cette question et qui ne répondent pas. Oui, l'enfant est capable d'obéir. Et bon, je parle un peu par expérience, j'ai quatre enfants, entre 27 et 12 ans, et nos quatre enfants sont obéissants. Mais ils sont obéissants parce qu'ils n'ont pas le choix.
Ah oui,
En fait,
d'accord, oui.
et le problème c'est que quand les parents disent est-ce que tu veux manger ta soupe?
Oui.
Ah, elle n'aime pas les épinards, mais vous savez, dans la famille, on n'a jamais tellement aimé les épinards. Vous savez, moi, elle mange que des pâtes. Alors, ou, non, ils savent pas se coucher avant minuit. Ah, puis je peux pas l'empêcher de regarder la télévision, c'est impossible. Donc, quand les parents sont comme ça, comment voulez-vous que les enfants soient obéissants?
Oui, de toute façon, on leur donne la possibilité du choix, donc ils choisissent ce qu'ils veulent, hein.
Donc ils se mettent en dessous d'un choix. Mais s'ils se mettent en dessous d'un choix, voilà, comme vous le dites, ils n'obéissent pas. Donc pour moi, la réponse, c'est oui. C'est-à-dire que l'enfant est naturellement obéissant. Mais si on creuse un peu plus la question étymologique, sous quoi l'enfant doit-il se placer? Alors je crois que l'enfant doit se placer sous deux choses. La première, c'est ce qu'il entend. Et la deuxième, c'est ce qu'il voit.
Ah, important, bien sûr, oui.
Et comme disait Jacques Salomé, ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu me dis. Et ça, je le remercie de cette expression. Je ne sais pas si elle est de lui, mais en tout cas, c'est avec lui que
L'avais
j'ai
découverte.
entendu ça. Et le problème, c'est que les parents disent, par exemple, ne fume pas, mais eux fument. Ne te mets pas en colère, ne t'emporte pas, mais eux s'emportent. Hein, etc. Et ne sois pas inquiet, mais eux sont inquiets. Alors, c'est sûr que l'enfant, hein, ne peut pas tellement se mettre sous la parole des parents s'il voit que les parents, ne respectent pas eux-mêmes leurs paroles.
Oui, c'est même presque l'essentiel. Hein. On ne peut pas, il faut qu'il y ait une concordance entre ce qu'on demande et ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait.
Et voilà. Et c'est pour ça que je pense que...
On n'est pas crédible. Sinon,
s'il y avait une chose que je propose à ceux qui nous écoutent de garder, c'est vraiment le fait que le plus grand principe d'éducation, c'est d'être un modèle. C'est que les parents soient bien dans leur peau, sachent bien ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent le faire. Être un modèle, ça, c'est tout. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quel que soit l'âge, quel que soit le tempérament, quel que soit finalement les circonstances familiales, etc., d'échecs, de réussites, être un modèle.
C'est une chose importante, bien sûr, d'être le modèle. Mais dans ma question, doit-il obéir à toutes les consignes des parents? Est-ce que parfois, il n'y a pas un dérapage, de la part de l'éducateur qui peut demander quelque chose qui est excessif à l'enfant?
Alors là, on va parler de l'exception qui confirme la règle. Hein, effectivement, quand l'enfant entend ses parents dire « tu mentiras » ou « tu mentiras » au professeur, comme ça tu n'auras pas une mauvaise note, eh bien il faut espérer que l'enfant ou le jeune ait cette conscience pour dire ben, « je vais essayer de m'arranger autrement hein? ». Oui, tout à fait d'accord, mais c'est quand même l'exception qui confirme la règle. La règle, c'est que les parents devraient être des parents d'aplomb et ne pas transmettre la bêtise, mais transmettre plutôt les choses qui sont raisonnables et qui sont éprouvées.
Oui, mais en poussant un peu loin quand même, disons, le bouchon, je pourrais dire que parfois les parents, innocemment, pensent que c'est le bien de leur enfant de leur donner une consigne qui n'est pas respectable, parce qu'eux-mêmes ça, n'ont pas conscience, peut-être.
Voilà, c'est pour ça que, comme on a pu le dire par ailleurs, la souffrance a son rôle pédagogique en nous, et quand ses parents ont des mauvais principes, alors quelque part, il doit faire l'expérience que ces mauvais principes les font souffrir. Oui. Et il devrait préférablement les abandonner.
C'est sûr, oui, qu'ils en prennent conscience et qu'ils les abandonnent. Alors, les parents doivent élever leurs enfants, c'est un devoir. Mais justement, pour reprendre quand même quelque chose, il ne faut pas perdre de vue qu'élever des enfants, c'est ça, hein, d'avoir des principes d'éducation pour les élever, c'est tout simplement, ça veut dire qu'il faut faire comprendre les choses à l'enfant, le faire grandir, le prendre d'un niveau bas, hein, je parle bas du point de vue d'âge, hein, ou capacité de comprendre, et le tirer vers le haut, le dresser, pas dans le sens dans le mauvais sens, je veux dire, l'élever, indiquer le chemin qui monte. Voilà, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut être sous quelque chose, mais en fait, il faut être sous quelque chose pour permettre à s'élever.
Oui, et ça devrait être toute démarche, le but de toute démarche d'autorité. Élever l'autre. Quand je suis avec quelqu'un qui m'apprend à peindre, à chanter, à conduire, il m'accompagne dans une démarche de progrès et il m'élève. Et donc l'éducation, le principe d'éducation, plutôt le projet d'éducation, est un projet qui élève l'enfant, absolument, oui. Et donc l'enfant, il a une vingtaine d'années pour être élevé. Et donc, comme tout à l'heure vous le disiez, les principes d'éducation ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge de l'enfant.
Il y a des choses qui évoluent.
Voilà, il y a des choses qui évoluent. Mais par contre, ce principe d'élévation reste le même. L'enfant apprend à marcher, l'enfant apprend à dire bonjour, il apprend à manger, il apprend à s'habiller, il apprend
à mettre de l'ordre,
etc. Oui, tout à fait.
Oui, alors les relations familiales, les liens, disons, entre le père et la mère, entre le père et les enfants, la mère et les enfants, vont obligatoirement jouer un rôle. Et si on prend des exemples dans la Genèse, on voit déjà des choses qui, disons, à cause de ces relations, peuvent avoir eu des conséquences fâcheuses. Par exemple, on note l'absence d'Adam, lorsqu'il y a le meurtre de Caïn, est-ce que ce ne serait pas la faute un peu d'Adam d'être arrivé à cette situation-là, ou de Ève qui n'a pas pris non plus ses responsabilités. chant plus tard, on voit pas Madame Noé. Est-ce qu'elle ne manque pas? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'irrespect du père? Parce que justement, il manque quelqu'un. Hein. Et puis, dans la famille Jacob, n'en parlons pas. Les préférences de l'un, de l'autre, les mensonges, tu diras ceci, tu feras cela. Donc, on voit que la cellule familiale, déjà, ben, provoque, disons, parfois des problèmes.
C'est pour ça que, en tant que parent, ou en tant que grand-parent, si vous êtes grand-parent, nous devrions mettre toute notre attention sur la qualité de la cellule familiale. Que nos enfants soient en sécurité, qu'ils soient dans des perspectives bien définies, en sécurité parce que justement, quand les perspectives sont bien définies, on sait où on va. Qu'ils soient aussi des objets d'une réprimande opportune. Quand on voit l'enfant qui joue avec, qu'est-ce que je pourrais dire, avec un vase qui coûterait 100 000 euros, on va l'enlever de la main de l'enfant et on va lui dire non, non. Non, non, parce que tu peux pas forcément comprendre pourquoi je te l'enlève, mais ce vase coûte très cher et si tu le fais tomber, il va tomber et je vais te l'enlever. Donc on va lui apprendre en fait à comprendre le prix des choses, etc. Et je crois que une des grandes difficultés de l'éducation, c'est qu'on n'est pas assez, les parents ne sont pas assez focalisés sur leur responsabilité de parents, mais ils sont beaucoup plus focalisés sur le résultat sur l'enfant. Et du coup, ils sont en inquiétude, ils sont dans l'énervement, ils sont dans l'amertume, ce qu'ils font ne marche pas, et de ce fait, ils deviennent mauvais modèles. Hein, donc là, on revient vraiment sur cette notion de modèle, et voilà, on abordera d'autres notions par la suite. Mais cette notion de modèle est vraiment une notion à retenir.
Thank you.
Dans la situation que vous décrivez, effectivement, si les parents sont fébriles, s'ils ne sont pas aptes, c'est à voir clair et à savoir ce qu'ils doivent faire et à ajuster les choses, il est évident que ce n'est pas certainement un bon climat pour élever un enfant. Ça crée un désordre, je reviens dessus, et ils n'arriveront pas à un bon résultat. Alors, je donnais des exemples donc bibliques pour montrer que la famille a un certain poids et une certaine influence. Mais est-ce que dans la Bible, y a-t-il, parce que je reviens à mon introduction, je recherche le guide parfait pour élever ses enfants. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il, dans les Proverbes, dans les Évangiles ou chez Paul, qui s'occupe beaucoup de choses, des principes d'éducation?
Oui. Il y a un exemple qui est terriblement présent et universel, c'est comment Dieu fait avec nous. Et c'est peut-être intéressant de voir ça d'un peu plus près. Ce n'est pas anodin si Dieu s'appelle le Père. Et qu'est-ce qu'on peut voir comme principe d'éducation très très concret, très 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 pratique, hein, très simple? Je crois que un premier principe, c'est que Dieu est tout-puissant pour ses enfants, un peu comme nous, nous sommes tout-puissants pour nos petits-enfants. Alors quand je dis petits-enfants, c'est pas qu'on soit grands-parents, c'est qu'ils
Non,
sont
l'âge.
un petit d'âge, oui. Il me semble qu'on peut dire que tant que l'enfant n'est pas arrivé à la puberté, alors les parents sont Dieu pour l'enfant. Les parents peuvent tout. Les parents décident de tout. Et l'enfant est dans une situation dans laquelle, en fait, si les parents ne décident pas de tout, alors l'enfant est mal. Et je pense que beaucoup de problèmes psychologiques résultent d'une non-observation de cette règle.
Oui, il y a le problème des barrières.
Dieu est tout-puissant. Première chose. Deuxième chose, Dieu nous fait faire des choses à sa place. Par exemple, comment est-ce que j'ai appris, moi, à connaître Jésus-Christ? C'est par d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui m'en ont parlé. Et on pourrait dire que depuis que Jésus est né, est mort et ressuscité, il y a quantité de personnes qui ont formé cette chaîne
Oui.
d'instruction, une chaîne d'amour, qui a fait que j'ai appris à connaître Jésus-Christ. Dieu a confié la tâche de me faire connaître Jésus-Christ à d'autres. Et donc il a délégué à d'autres ce que lui aurait pu faire tout seul.
Oui.
Qui est mieux qualifié, franchement, que Dieu pour parler de Jésus? Eh bien non. Il en fait parler aux autres. Pourquoi? Eh bien je pense
Pourtant,
que...
ils sont à la portée de... Ce sont d'autres hommes, ils sont à notre portée, c'est peut-être plus simple.
Oui, mais Dieu aurait pu faire que Jésus revienne.
Ah oui, mais c'est pas ça, dans plein, ça. Il doit revenir, mais plus tard,
Exactement.
pour
Et
régler
pourquoi est-ce
d'autres
qu'il reviendra
choses.
plus tard? C'est parce que je pense Dieu veut que nous nous approprions mieux en fait ces choses-là en son absence. C'est-à-dire que Dieu délègue et Dieu nous fait entrer dans une action dans laquelle il n'est pas tellement absent parce qu'il est présent spirituellement, hein, parce qu'en fait il nous parle, il nous console, il nous rassure, il nous permet de préciser les choses. Eh bien, c'est ça que devraient faire les parents à l'adolescence.
Oui, mais pour reprendre votre exemple, quand même, c'est très bien qu'il y ait toute une chaîne depuis Jésus-Christ qui se crée, qui va se créer, j'espère, longtemps, jusqu'au retour de Jésus, pour nous parler, nous faire connaître de Dieu. Mais je crois quand même que vous oubliez une petite chose, c'est que pour que vous puissiez comprendre qui est Jésus, et ainsi de suite, il a fallu quand même à vous qu'il y ait l'esprit qui soit agissant.
Absolument.
Hein? Il ne faut pas quand même
Absolument.
l'oublier, là.
Non, 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 non.
Je m'inquiétais.
Non, non, mais on peut pas parler de tout en même temps,
Oui, non,
donc
non, quand même, je préfère quand même le signaler que
voilà.
l'esprit est quand même là.
Voilà. Donc c'est absolument clair que le projet de Dieu est un projet de délégation.
Oui.
Un projet dans lequel il ne fait pas les choses à notre place. L'adolescent, eh bien, les parents lui disent voilà, qu'est-ce que tu ferais à manger aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas faire tes devoirs? Quels sont tes amis? Qu'est-ce que tu aimes chez tes amis? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Et ce projet de délégation est un projet très important parce que c'est lui qui permet à l'adolescent d'être réellement dans une démarche, d'entrer dans une démarche d'autonomie et de s'approprier vraiment tout ce que les parents veulent que l'adolescent s'approprie. Mmh. Je résume, c'est peut-être un tout petit peu compliqué. Dieu ne fait pas les choses à notre place parce que en les faisant, nous allons apprendre à les faire. L'adolescent doit apprendre à les faire de la même manière et il ne faut pas que les parents fassent les choses pour leurs adolescents.
Oui, et je rajouterai qu'en fait, ça nous permet d'apprendre, disons, l'autonomie de nos choix, en fait, et notre responsabilité, puisqu'il nous laisse faire ce que nous avons à faire.
C'est ça.
Oui. Alors moi, je me permets de rajouter aussi notre qualité de Dieu le Père, c'est sa patience. Vous ne trouvez pas qu'il a de la patience vis-à-vis de ses enfants?
Oui, oui. J'ai peut-être moins d'enthousiasme que vous, mais je vais m'expliquer à cet effet. La patience, c'est le fait d'attendre. Quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui sait attendre. Je pense qu'en toute révérence, en tout honneur rendu à Dieu, que c'est plus facile pour Dieu d'être patient que pour nous, parce que lui, il sait ce qui va se passer à la fin.
Oui.
Mais... alors que nous, on ne sait pas. Dans un sens, le temps qu'il m'a fallu pour changer, Dieu le connaissait. Alors que moi, je ne sais pas le temps dont j'ai besoin pour changer.
Bien sûr.
Mais le principe de patience est exactement le même. C'est-à-dire que depuis que j'ai compris ça, en fait, pour moi, attendre, c'est agir comme agir, ou comme une autre action finalement. Mmh. Ce qui fait que je crois que je suis moins méritant, peut-être, que les gens peut-être qui essayent d'être patients par force sans avoir pris de recul là-dessus. Être patient, c'est se dire, mais de toute façon, ce que nous vivons a du sens et le temps qui se passe est un temps qui est utile pour que les choses se fassent.
Oui, moi je parlais de la patience de Dieu parce que je voyais ses relations et ses rapports avec son peuple depuis le début, qui ont cru à lui, qui l'ont respecté, puis qui l'ont abandonné, ils sont revenus, ils l'ont encore lâché et ainsi de suite. Et chaque fois, il a été là, pour ne pas quand même les apprendre, jusqu'à envoyer quand même Jésus-Christ.
Alors, ce n'est pas un échec, ni pour Dieu, ni pour le peuple.
Je parle de sa patience.
Oui, mais puisque ce n'est pas un échec...
Il a accepté, il a répondu chaque fois.
Puisque ce n'est pas un échec, il n'y a pas tellement de raisons d'être impatient. Puisqu'en fait, le peuple faisant mal, il apprend dans la douleur à bien faire.
Oui.
Alors là, peut-être que c'est trop positif ce que je dis. Mais je crois que c'est vrai, si vous voulez...
je comprends très bien qu'il y a une éducation, justement. Voilà.
Par exemple,
un apprentissage.
Il y a des parents qui, à mon sens, auront de grandes difficultés dans leur apprentissage. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne voudront pas être en échec. Dès qu'il y aura un échec, ils se sentiront mal, mais ils n'ont pas à se sentir mal. Quand l'enfant est en échec, il apprend quelque chose.
Oui.
Et du point de vue de l'éducation, l'échec est un outil très important. Quelquefois, on apprend bien mieux en ayant mal qu'en faisant bien quelque chose tout de suite.
C'est vrai, oui, oui. Alors, là, je vous avais posé la question initiale, est-ce qu'en fait, dans la Bible, il y a donc des conseils d'éducation? Et on m'a dit d'abord Dieu. Et on vient de voir que Dieu est tout puissant, on le reconnaît tout puissant, et qu'il nous laisse faire des choses pour qu'on apprenne. Et bien sûr, et donc qu'on s'élève vers lui, et puis aussi peut-être dans notre vie, tous les jours. Et y a-t-il autre chose,
oui,
d'autres livres?
Donc, la première chose, c'est que Dieu est tout-puissant.
Oui.
La deuxième chose, c'est qu'il délègue.
Oui.
Alors maintenant, une troisième chose, c'est que Dieu est créatif.
Oui.
Il est créatif, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir la terre, créer et voir que c'est extraordinaire tout ce que Dieu a fait. Mais regardez dans cette pièce. J'ai un verre dans ma main. Est-ce que le verre existait quand Dieu a créé la terre? Non, il n'existait pas de manière... Il y avait le sable.
Oui, d'accord.
Mais c'est l'homme qui a compris avec le sable, notamment le sable de Fontainebleau ou le kaolin, qui a compris qu'il pouvait fabriquer quelque chose de dur et de très poli, comme le verre, de transparent aussi, et les verres de lunettes qu'on peut usiner. L'homme est créatif. Dieu a appelé l'homme à être créatif. Et Dieu laisse l'homme, quelque part, c'est pas qu'il l'abandonne, mais il le laisse pour qu'il soit créatif. Voilà notre principe d'éducation. Si nous on laisse pas l'autre mariner, il sera pas créatif. Mmh. Alors vous avez les parents poules, les mamans poules, qui sont tout le temps en souci. Mmh. Voilà un troisième caractère de Dieu, je crois, dans ce principe d'éducation, dans ces principes d'éducation qui est très important. Et je pense que c'est ce que nous devons nous être avec nos enfants, qui sont les adultes. Mmh. Bien sûr avec l'adolescent et avec le petit enfant. Petit enfant, donc de la naissance à la puberté, adolescent de la puberté jusqu'à ce qu'il quitte la maison, et après le jeune adulte. Et le jeune adulte, il est dans une phase d'autonomie complète. Le jeune adulte, c'est lui qui va créer son environnement d'amis, qui va voir avec qui est-ce que l'amour peut ressortir, qui va être attiré par tel ou tel aspect culturel ou professionnel. Hein, donc, voilà, en troisième point, ce côté créatif de Dieu.
Donc, nous voyons là les points essentiels de Dieu, hein, qui effectivement nous permet, disons, il est puissant, il nous fait faire des choses à sa place, il est créatif et il nous demande de continuer sa création, et ça s'applique purement et simplement à l'éducateur.
Voilà. Hein? Si on...
Et y a-t-il d'autres points?
Il y en a d'autres, oui, oui, oui. Si on... Dans un sens, plus on connaît Dieu, et plus on lui ressemble en quelque sorte, parce que ce qu'on voit chez Dieu est intéressant, nous interpelle et nous pousse à faire un peu comme lui. Un autre caractère de Dieu, c'est que le projet éducatif est court.
Comment court ?
Il est court parce que Dieu nous appelle, par exemple, dans la Bible, il y a l'expression « être un homme fait ou parfait ou accompli ou spirituellement adulte ». Il y a tout un moment dans lequel Dieu nous éduque, mais après, il y a un moment donné où il nous fait collaborer. Mm-hmm. Et donc, dans la collaboration, on est moins enfant que si on était enfant, si vous voulez. Hein? Et donc, le projet pédagogique de Dieu est un projet court, qui est certainement sensiblement plus court que le projet de collaboration. Dieu nous appelle à être ses collaborateurs.
Oui, oui,
2
oui,
Corinthiens 3:5 dit nous sommes collaborateurs de Dieu. Et donc j'ai envie de dire ici aux parents qui pourraient écouter cet enregistrement, si vous ne faites pas de votre projet éducatif un projet court, alors, quand vos enfants vont partir, vous allez tomber en dépression. Parce que si vous faites de votre relation avec vos enfants quelque chose de tellement important, en fait, que vous voudriez que ça n'arrête jamais, alors quand vous n'aurez plus de relation avec vos enfants, ça va être la catastrophe.
Et ils vont là, disons, stressés, parce qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout fait, ils sont partis sans tous les bagages.
Voilà, oui. Ce qui peut être quelque chose de tout à fait précis. Hein. Oui. Les parents voudraient avoir enseigné ça, ils ne l'ont pas fait. Mais d'un autre côté, les parents voudraient que les enfants restent.
Bien sûr.
En fait, hein. Et les enfants ne sont pas là, ne sont pas faits pour rester.
Non.
Hein, ils sont faits pour partir vers quelque chose, et de ce fait... voilà, Dieu, je crois, fait comme nous. Dieu, il est plutôt. Dieu fait quelque chose que nous ne devrions faire comme lui.
Aussi.
Dieu est autosuffisant. Mais Dieu a des enfants, hein, c'est la famille de Dieu, c'est ceux que le Christ n'a pas honte d'appeler ses frères, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 2.
Mais de toute façon, la période d'éducation courte, c'est logique et normal, même pour les humains, même pour nous. Parce que quand même, on va éduquer surtout les premières années, lorsque l'enfant est adolescent. Bon, admettons que ça arrive jusqu'à 20 ans, mais 20 ans par an, il va lui rester 60 ans après.
Et c'est ça.
Alors, donc, logiquement, un parent qui est justement, qui réfléchit, il doit savoir que ça ne peut avoir qu'un temps, l'éducation.
Et oui.
Et faire comme Dieu. Hein, la collaboration est plus longue.
Et donc, à cet égard... l'expérience que j'ai dans la pratique pastorale montre que c'est souvent pas le cas.
Mmh.
Alors autre chose aussi que Dieu fait, c'est qu'il axe son éducation sur deux grands projets. Le premier, c'est la relation, et le deuxième, c'est l'action. Deux grands projets qu'il faut bien, bien retenir, mais ce n'est pas très compliqué. Le premier, c'est la relation. C'est-à-dire qu'il dit par exemple à Adam, ou en regardant Adam, il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et nous sommes des personnes en relation. Par exemple, je n'ai pas trouvé, je pense que je ne trouverai jamais, quelque chose... qu'il soit fait sans que cela concerne quelqu'un. Il y a, en fait, les choses n'ont de sens que si elles concernent quelqu'un. Et donc, ce que je fais, obligatoirement, me met en relation. Si, par exemple, je fabriquais des étuis à lunettes, ou si je travaillais à la qualité de l'air dans une ville, c'est toujours pour des gens, en fait, que je fais ça.
Oui, c'est vrai.
Et dès que je perds de vue que ce que je fais, c'est pour quelqu'un, alors j'en perds... le bénéfice absolu. Et je crois que les gens qui dépriment dans leur travail sont des gens qui ont perdu de vue le fait que ce qu'ils font, c'est pour quelqu'un. Parce que c'est le fait de le savoir que c'est pour quelqu'un qui donne toute la qualité de ce que je fais et qui en donne l'amour, en quelque sorte.
On n'y passe pas assez, peut-être, à ça, effectivement. C'est vrai. Je ne peux pas vous dire que vous trompez ou que c'est faux. Mais je crois qu'on n'y pense pas
assez. On n'y pense pas assez.
Oui, oui.
Voilà. C'est quelque chose qui est évident. Hein, l'évangile, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est évident. Hein, mais quelque part, ça nous... on est capable de se mentir, de se démolir, de se blesser, de se tuer, de se voler, etc. Quand je pense au nombre de cambriolages qu'il y a dans une ville, dans une grande ville en France, par an, c'est impressionnant.
Oui.
Hein, voilà. Si on ramène ça aux enfants, c'est exactement pareil. Vous avez des familles dans lesquelles, par exemple, l'accent est tellement mis sur ce qu'on fait, par exemple avoir des bonnes notes à l'école, par exemple savoir bien jouer d'un instrument de musique ou faire du sport de manière à haut niveau. Mais oui, on va faire du sport à haut niveau, mais mon adversaire, je suis prêt à tout pour le vaincre. Et donc là, j'ai une perte de qualité de relation à l'adversaire.
Oui.
Voilà un mauvais principe d'éducation.
La qualité de relation est importante. Oui. Il faut l'inculquer le plus vite possible, effectivement, aux jeunes.
Et deuxième principe, c'est la qualité de l'action. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles, alors la relation est tellement importante, on est bien ensemble, oui, mais on ne fait rien. Il faut respecter les gens, oui, mais il ne faut pas leur dire non, parce qu'on a peur de les blesser. Oui, mais si on ne leur dit pas non, alors... par rapport à l'action, on va être dans une médiocrité. Si on n'est pas là dans un échange un peu rude où on va se donner le droit de dire non, on ne va pas progresser ensemble. Oui. Si on ne peut pas parler, si on ne peut pas argumenter sur la qualité de ce que je fais, alors il y aura une grosse perte.
Oui. Reprécisez bien là ce petit B, si vous voulez, sur la relation, c'est clair et net, mais sur l'action, moi je croyais que c'est de passer après, disons, avoir une relation, être en relation avec son prochain, mais que l'action, c'était de faire quelque chose, que ce n'est pas de demander l'avis à d'autres sur ce que l'on fait.
Il faut le faire. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les parents apprennent aux enfants à bien faire.
Voilà. Donc, il faut qu'ils fassent d'abord.
Il faut qu'ils fassent.
Ouais, c'est ça.
Et quelquefois, dans les familles dans lesquelles le principe relationnel est porté au pinacle, est trop exagéré, alors on ne sait plus faire. On passe notre temps à sourire, à dire oui, à faire du bien aux autres, à aller donner sa chemise et à parcourir le monde pour annoncer Jésus-Christ. Mais par contre, on ne saura pas faire un bon repas, on ne saura pas décorer sa maison, on ne saura pas vivre par le plaisir que nous procure la vie. Nous sommes appelés à faire et avoir du plaisir à faire. Et avoir du plaisir à parler, à faire de la poésie peut-être, à faire du théâtre, hein, ou à aller se promener, ou à jouer aux cartes, hein, voilà, et toutes sortes de plaisirs. Et je crois que montrer ces deux grands projets, la relation et l'action, alors ça permet à tout moment de bien savoir. Si je reformule, hein, parce qu'on est vite perdu avec tout ça.
Oui, on suit.
Oui, j'ai dit que dans un premier temps, Dieu était souverain.
Voilà.
Et donc, les parents doivent être souverains pour les petits-enfants. Les parents, ça doit savoir. Mais si ça ne sait pas, ben, ce n'est pas de la faute des enfants, c'est de la faute des parents. Hein, il faut que les parents apprennent rapidement à être parents. Il faut qu'ils sachent ce que c'est, que ben, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Il faut pas qu'ils disent « je ne sais pas ». Moi, j'entends souvent des parents dire « Ah, mais je dis surtout pas à mes enfants pour la religion, ils verront bien quand ils seront grands. » Et mais ce n'est pas une solution, ça. Si les parents ne savent pas, il faut que les parents sachent. Et je ne dis pas qu'il faut que les parents imposent. Ce n'est pas pareil. Hein. Mais il faut que les parents aient creusé et vivent des choses qui soient bonnes, hein, de l'ordre de l'excellence.
On revient au modèle.
Hein. Après, on a vu dans la deuxième tranche, qui est l'adolescence, qu'il faut que les parents apprennent à déléguer.
Bien sûr.
Dans la troisième tranche, qu'il faut qu'ils poussent à être créatifs et à faire quelque chose de leur dix doigts. Et puis, dans ce projet général, le projet de l'action et de la relation.
De la relation et de l'action, hein,
voilà.
Oui.
Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais on peut le retenir en étant un petit peu pragmatique, un peu concret, un peu simple.
Oui, il n'y a quand même que quelques points. ça correspond parfaitement à l'éducation. Donc voilà, Dieu, éducateur. Et donc, nous, on peut très bien continuer. Alors, bon, on peut peut-être éviter la contrainte quand même, non ?
La contrainte, c'est...
Parce que qui dit éducation dit contrainte parfois.
C'est ça. Je dirais que le plaisir devrait être un des moteurs essentiels de l'éducation, avec aussi le rapport à Dieu. Mais voilà, la contrainte qui est le contraire de la liberté.
Voilà.
Et la contrainte donne la frustration, alors que la liberté donne le plaisir. Et si tout ce qu'on propose à nos enfants est marqué par le plaisir, alors je crois vraiment que les enfants ont envie de rentrer dans cette dynamique-là, ils ont envie même de passer le balai dans la cuisine. Parce que finalement, passer le balai dans la cuisine, ça participe à la vie de la famille dans laquelle il n'y a pas de choses pénibles. Alors que c'est très souvent dans les familles que j'entends, ah oui, mais cette corvée-là, on les fait à tour de rôle, c'est des corvées. Hein. Mais non, il n'y a pas de corvée. Aller amener la poubelle, ce n'est pas une corvée. Passer, faire les vitres, ce n'est pas une corvée, etc.
Et il y a aussi une émulation, parce qu'il y a plusieurs enfants dans la famille, plusieurs membres, l'émulation n'a pas un rôle à jouer aussi dans l'éducation.
L'émulation, moi je la verrais beaucoup dans ces deux projets que nous avons vus, c'est-à-dire le relationnel et l'actionnel. L'émulation dans le relationnel, c'est par exemple apprendre à jouer d'un instrument, c'est se donner les moyens d'avoir une bonne sociabilité après.
C'est certain, oui, c'est vrai.
Hein? Connaître la géographie ou l'histoire d'un pays, c'est se donner les moyens d'avoir une bonne sociabilité. Et savoir rentrer en relation, savoir parler de quelque chose. Hein, voilà. Par ailleurs, donc là, on est vraiment dans l'émulation. Par ailleurs, apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, c'est une bonne émulation parce que c'est lui donner le moyen d'obtenir quelque chose d'extrêmement gratifiant.
De l'éducation, des principes d'éducation, on peut rester aussi peut-être sur des grandes questions qui viennent souvent dans les on entend les éducateurs, évidemment, donc se poser justement des questions. Alors peut-on, au nom de la liberté, et la liberté c'est un grand mot chez nous, hein, laisser faire et dire sans intervenir, lorsque c'est des gens qu'on éduque, hein?
Non, on ne peut pas laisser sans intervenir. Les parents ont une responsabilité à l'égard des enfants. Et c'est triste, c'est affligeant de voir des parents qui n'interviendraient pas et qui verraient leurs enfants faire n'importe quoi.
Mais ils se désavoueraient eux-mêmes déjà.
Exactement.
Ouais. Oui. Donc, il faut toujours avoir une réponse claire.
Il y aurait un manque d'amour, il y aurait un manque d'intérêt, il y aurait un manque
voilà,
de...
Voilà, c'est un manque d'intérêt, c'est vrai.
Voilà, de proximité, de compassion même. On ne peut pas laisser quelqu'un se faire du mal comme ça, c'est invraisemblable.
Oui, mais pour vous dire, oui, mais il va apprendre. C'est l'apprentissage de la vie, sa souffrance, il en tirera un enseignement.
Eh bien, moi, ce n'est pas comme ça que j'élève mes enfants.
Voilà. Alors, autre chose qui ne va pas à l'encontre de ce que vous avez dit tout à l'heure, mais bon, donner des consignes, dire voilà, je donne un programme bien calculé, un programme court, un programme plus long, par exemple, mais justement, est-ce que on peut penser que sa tâche est terminée à un certain moment, n'est-ce pas dangereux? Parce que moi, je pense que quand on sème, c'est pas tout. Il suffit pas de mettre la graine dans la terre. Hein, il faut arroser, il faut arracher les mauvaises herbes, et puis quand ça pousse, mettre un engrais, tant pis si les écolos m'entendent, hein, et puis mettre un tuteur pour que ça signe droit. Donc on ne peut pas arrêter quand même comme ça.
Le projet s'arrête quand c'est le moment. Par exemple, j'ai 52 ans et ma mère est toujours en vie. Ma mère n'a plus de projet éducatif à mon égard. Donc le projet s'arrête quand c'est le moment.
Oui.
Après, c'est vrai que ça dépend un peu...
De la personne.
Des personnes.
Parce que je vois bien des personnes âgées qui ont des enfants d'une cinquantaine d'années, mais qui veulent toujours intervenir. Pourquoi
voilà.
Elles font
ça? À mon sens, elles ont tort. Elles dépassent leur fonction.
Donc, il faut bien évidemment s'arrêter quand même quand c'est le moment, mais c'est... Là, le problème de déterminer le bon moment.
Je crois que quand les enfants partent de la maison, il y a quelque chose de clair qui se passe. Et souvent, ils partent parce qu'ils sentent qu'ils peuvent partir. Parce qu'ils sentent qu'ils ont la capacité de partir, la capacité d'être autonomes, ils font leurs propres expériences. Et donc, c'est un signe qui est assez fort.
Et puis, souvent, s'ils s'en vont, c'est qu'ils ont gagné leur autonomie, soit parce qu'ils vont travailler, ensuite peut-être aussi parce qu'ils se marient. Donc, c'est à eux quand même d'intervenir et de jouer. Alors, mais je reviens aux éducateurs. Est-on toujours sûr de ce qu'on veut inculquer?
Eh bien, on devrait être sûr. Parce que dans une action, il y a toujours des éléments dont nous sommes sûrs. Par exemple, je suis en train de parler. Alors, un élément dont je suis sûr, c'est que je parle à quelqu'un, c'est à vous. Un autre élément dont je suis sûr, ça c'est côté relationnel. Un autre élément dont je suis sûr, c'est que ce que je dis doit être compréhensible.
Il vaut mieux.
Voilà. Après, parler de succès ou d'échec dans ce que je fais, c'est déjà très très aléatoire. Ou très, personne ne peut savoir s'il est en échec ou en réussite. Et dans la foi chrétienne, on va dire que ce qui nous place en réussite, c'est la foi. Hein, c'est le fait qu'on fasse les choses pour le Seigneur et avec lui. Alors, je crois qu'il y a toujours des choses desquelles nous pouvons être sûrs dans la vie, pour répondre précisément à votre question.
Et oui, et c'est...
Eh bien, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est le fait d'être... Le fait d'être... d'apprécier la personne à qui on parle, hein, le fait d'être en relation, et de faire... de bien faire ce qu'on est en train de faire, le fait d'être en action de manière intelligente.
Oui. Et donc, une autre petite question aussi, n'est-il pas nécessaire d'adapter sans arrêt ce que l'on veut transmettre en fonction soit des réactions du sujet, hein, de l'éduqué, de l'enfant obtenu, ou soit des événements? C'est bien joli d'avoir des principes qu'il y a dans certaines familles, mais parfois les réactions sont telles que ça peut craquer, ça peut faire encore plus de mal. Et puis parfois il y a aussi des événements.
Je dirais du point de vue personnel que je suis continuellement en train d'adapter. Par exemple, l'action que je mets en œuvre, je la mets en œuvre en fonction des gens avec qui je suis ou avec qui je ne suis pas. Et je ne ferai pas les mêmes choses avec l'un ou avec l'autre. Et je ferai... Il y a des choses que je fais, des choses que je ne fais pas, avec l'un ou avec l'autre.
Monsieur.
Et oui. Donc, oui, il faut toujours adapter. Il y a des moments où on dit oui à nos enfants et des moments où on dit non. Et pourtant, c'est exactement à l'égard de la même chose. Donc, voilà.
Il faut savoir s'adapter, il faut avoir une certaine souplesse et ne pas avoir un principe rigide.
Et c'est justement le sens de la créativité.
Voilà.
On n'est pas appelé à reproduire quelque chose, on est appelé à vivre. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles on reproduit ce que les parents ont fait, ça c'est un petit peu dommage.
Donc il faut insister sur la créativité.
Voilà. Hein?
Alors, autre chose qu'on peut aborder, c'est est-ce que les sanctions sont nécessaires? Et si on parle de sanctions, il y a une notion de justice qui transparaît là aussi. Hein. C'est pas difficile ça, dans la famille?
La première sanction, me semble-t-il, c'est la douleur que s'inflige l'enfant qui fait mal. Parce que quand on fait mal, on se fait mal.
S'il est bien éduqué, qui comprend qu'il se fait mal. Hein.
Et donc, l'éducation parentale consiste à apprendre à l'enfant que l'enfant se fait mal.
Oui.
Donc, voilà une sanction qui me paraît être la plus répandue et la plus importante. Mais c'est aux parents, souvent, de faire prendre conscience à l'enfant de cela. Alors peut-être une chose dont on n'a pas parlé, c'est les rôles parentaux. Il me semble que le papa père est le plus souvent orienté vers l'action et la mère le plus souvent orientée vers la relation. Et quand
il y a un partage des tâches.
Il y a un partage des tâches, ce qui ne veut pas dire que le papa ne soit pas en relation et la mère pas en action. La mère fait quantité de choses, mais il me semble que quand la mère va faire quelque chose, elle a un bagage relationnel qui est beaucoup plus important que quand le père va faire quelque chose. Et vice-versa. Quand le père va faire quelque chose, il a un bagage actionnel beaucoup plus important que la mère. Et donc, je dirais que quand les parents sont bien à leur place, quand la féminité d'une femme se manifeste et la masculinité de l'homme se manifeste, alors les enfants sont vraiment dans une bonne dynamique où ils sont à la fois dans l'action et dans la relation. Quelquefois, on voit que ces deux points sont en défaut, et par exemple, quand le père manque d'action et que la mère manque de relation, alors il y a des confusions qui se font. Et parmi les confusions, on pourrait, par exemple, nommer ce qui pourrait résulter, c'est-à-dire qu'un enfant soit en difficulté dans l'action et un complexe d'infériorité, ou qu'un enfant soit en difficulté dans la relation et soit amené à fuir, à se cacher, et ait du mal à rentrer en relation. Mmh. Il y a un rapport relationnel difficile. Mmh. Dans un sens et à l'excès, on pourrait dire que, par exemple, on peut comme ça développer un côté artiste très poussé.
Mmh.
Hein, quand le côté relationnel est poussé à son extrême, et qu'il y a peu d'actionnel, mmh. alors on pourrait dire que, en fait, on est tellement vers les autres qu'on va peu faire et on va peu développer. Mais si le côté actionnel est développé, et si on aime tellement la musique et qu'on se fiche complètement des gens, alors on va être peut-être un artiste excellent,
oui.
qui va mourir, et qui va mourir jeune, comme certains Brel ou autres personnes, mmh. Parce qu'en fait, ils sont terriblement dans leur sensibilité artistique, qui est une sensibilité actionnelle, mais il faudrait qu'ils la communiquent dans la relation, mais ça, ils ont beaucoup de mal.
Oui, oui, oui.
Et donc, il y a des travers comme ça qui se font. Un autre travers, et puis après, je laisse la parole, je pense que du point de vue de la sexualité, quand on a un côté relationnel avec le parent du sexe opposé qui est vraiment mis à mal, hein, qu'on a souffert d'une mauvaise relation avec le parent du sexe opposé, et quand on a un côté actionnel, quand on est un homme qui est amoindri, alors peut-être qu'il peut y avoir une homosexualité, mmh. qui se pose et qui est à comprendre, de laquelle on peut sortir parce qu'on va pouvoir prendre conscience de ces choses et, dans un sens, avec un peu de temps, les intégrer à une vie qui, du point de vue chrétien, sera une vie hétérosexuelle.
Oui, bien sûr. Et donc, autre disons, problème, et ça doit apparaître de plus en plus souvent avec toutes ces familles éclatées, peut-on confier à d'autres l'éducation des siens?
Alors là, autant je vous ai répondu par oui ou par non à plusieurs reprises, et là je ne peux pas répondre par oui ou par non, parce que tout dépend des cas de figure.
Imaginons, supposant qu'il y ait le choix quand même, voilà. Cette obligation.
Imaginons, par exemple, que c'est la guerre, que papa est fait prisonnier, et que maman est obligée de travailler, et mmh. elle confie ses enfants à l'oncle et la tante qui peuvent les élever.
Mmh.
Donc je crois que là, la réponse... c'est oui, mais après, ce que maman veut le faire, hein, et tout est compliqué parce que ça dépend de ce que maman voudra faire.
Oui, mais on peut supposer une situation où il n'y a pas le choix. On est obligé de confier les enfants, disons, à soit un parent, soit à des amis. Est-ce que ce n'est pas mauvais pour les enfants? C'est dans ce sens que je voulais poser la question.
Quand il n'y a pas le choix, je crois que de toute façon, que ce soit mauvais ou pas, ben on...
Oui.
On n'y peut rien.
C'est une situation à éviter.
C'est ça, bien sûr.
Voilà, voilà. Oui. De toute façon, c'est ça. Oui. Alors, on va revenir à un point essentiel, c'est l'éducation de la foi. Alors, logiquement, là aussi, on doit être le modèle, même pour la foi, pour sa foi chrétienne. On doit montrer à l'enfant notre amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour nous, nos pratiques, et bien entendu. Mais on entend souvent, et de plus en plus, ben, au nom de la liberté, je lui laisse le libre choix, il verra plus tard. Alors, plus tard, moi je trouve que, disons, c'est un peu catastrophique comme projet. Parce que plus tard, d'après l'expérience que j'en ai, n'arrive souvent jamais, d'une part, et puis d'autre part, c'est quand même curieux, bon, quand il est malade, on soigne l'enfant, on n'attend pas le soigner, ou ne serait-ce qu'on lui apprend à lire tout de suite. Hein.
On pourrait dire que de la même manière, n'apprenons pas à nos enfants à manger équilibré, à dormir, à
ils
lire.
Ils verront plus tard.
Ils verront plus tard.
Voilà.
Bon, je crois que quand on fait comme ça, on se rend bien compte que ça ne marche pas bien, et on pourrait dire que quand les parents disent ils verront plus tard, ils ne font qu'extérioriser leur propre ignorance ou méconnaissance ou manque d'intérêt ou peut-être révolte
voilà.
Contre quelque chose.
Je crois que pour le temps qui nous reste, on pourrait peut-être parler de questions plus pratiques. Vous avez dans votre documentation toute une liste. Alors, je vous demande de choisir une question et d'y répondre. Alors, par exemple, je ne sais pas, qui peut convertir les enfants si ce n'est pas la famille? Puis pour reprendre un peu le lien avec la dernière question, ça alors, peut arriver?
Les enfants. L'enfant en bas âge, entre la naissance et la puberté, croit ce que disent les parents. On en a parlé tout à l'heure, hein, Dieu est souverain et les parents sont souverains. Et donc, quand les parents vivent une relation avec Dieu, alors l'enfant la prend et l'intègre. Quand l'enfant, après, choisit de ne pas croire Dieu, je crois que c'est pas à cause de Dieu qui fait ça, parce que Dieu, justement, il est parfait. Hein, voilà. Mais c'est plutôt qu'il doit y avoir une révolte quelque part. Donc, qui convertit? Je crois que l'enfant trouve naturellement sa place avec Dieu. Et ce n'est pas les parents qui convertissent les enfants, mais c'est les enfants qui prennent chez les parents ce qui doit être pris.
Oui, mais la révolte, elle ne peut pas venir d'eux. Je ne vois pas un enfant de 7 ans se révolter contre Dieu.
Contre les parents.
Contre les parents. Ah oui, oui, c'est une contrepartie contre les parents. Oui, d'accord. Ah là, je comprends mieux. Oui. Je ne voyais pas un enfant de jeune enfant.
Et alors, quelquefois, on voit des enfants qui adhèrent à Dieu, qui croient en Dieu, alors que les parents sont athées. Mais quelquefois, il y a un oncle, une tante, il y a des grands-parents, il y a des gens qui sont proches et qui montrent, en fait, finalement, qui est Dieu dans leur vie. Et les enfants le prennent parce que ça leur paraît
voilà. Oui, ça leur paraît plus bien. Tard, il y a effectivement toujours des rencontres au lycée ou plus tard, effectivement. Alors, comment en faire de nos enfants des êtres bons quand on a conscience d'être soi-même bien imparfait? On sait qu'il faut être le modèle.
Alors, on a répondu à ça.
Oui, mais...
Hein, la solution la plus facile, c'est de progresser.
C'est de progresser
de
soi-même.
De se remettre en question.
Voilà, d'accord.
Et donc, pour ceux qui auraient un peu de mal, eh bien, écoutez, contactez Appel Espérance et demandez à quelqu'un d'accompagner pour qu'il y ait un véritable progrès.
Alors, d'autres questions dans la liste. En quoi provoquons-nous parfois nos enfants? En quoi on va les hériter souvent?
C'est intéressant de voir que dans la Bible, ce reproche ou cet avertissement est donné au père. Il est dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Hein. Oui. Épître aux Colossiens, à la fin du chapitre 3, c'est repris en Éphésiens 6 également. Alors, je crois que justement, c'est le Père qui a tendance à hériter ses enfants. Pourquoi? Alors que c'est la mère qui met en sécurité. C'est parce que c'est chez le Père que le mode actionnel est le plus présent. Et l'action est tellement importante que quelquefois, la relation s'en trouve piétinée et que l'enfant est découragé. Mmh. Alors qu'il faudrait toujours, préférer la relation à l'action, mais pas au détriment de l'action. Mais il faudrait donner à la relation toute sa place. Mmh. En fait.
Oui. Et alors, par exemple, quelles ambitions avons-nous pour nos enfants? Peut-on avoir l'ambition de nos enfants? Décider, il sera médecin, en général, c'est ça, ingénieur ou autre chose. C'est rare, on dit, j'ai des ambitions pour mon enfant, je voudrais qu'il soit paysan. En fait, bon, on sait jamais, à moins que ce soit une famille écolo. Bon, On ne peut pas avoir l'ambition pour ses propres enfants.
Je vais en donner deux, il pourrait y en avoir beaucoup plus, hein, mais deux qui me paraissent essentiels et complémentaires. La première, c'est que l'enfant apprenne dans sa relation avec Dieu à discerner la volonté de Dieu. C'est une première chose.
Oui.
Et on a fait un enregistrement sur ce sujet, donc je n'y reviens pas. Et la deuxième, c'est que discernant la volonté de Dieu, que l'enfant, en tant qu'adulte, apprenne à être créatif, apprenne à être collaborateur de Dieu, et rentre dans cette vie qui est très très intéressante, très riche, justement, de création, dans laquelle toute sa personnalité va véritablement s'exprimer.
Alors, autre chose aussi, par exemple, est-ce qu'on doit demander pardon à ses enfants? Si on veut, on se pose la question, c'est qu'on a senti qu'on avait quelque chose qui n'allait pas.
Oui. Et ma réponse est oui.
Oui.
Quand quelque chose ne va pas, ben je dis, je te demande pardon. J'ai été idiot, je me suis précipité, je t'ai blessé, je t'ai ignoré, etc. Donc je te demande pardon, oui.
Oui. Et l'image du père ou l'image de la mère ne va pas se trouver écornée,
au contraire,
on ne va pas perdre quelque chose.
Au contraire, non. Puisque justement les enfants vont voir quelqu'un qui se trompe et qui reconnaît qu'il s'est trompé.
Alors maintenant, nous pouvons avoir parfois la crainte de ne pas savoir aimer nos enfants. Qu'est-ce qui devrait changer alors? Je ne sais pas aimer mes enfants.
Je pense que la question de l'amour est beaucoup liée à l'amalgame que la plupart des gens font entre aimer, qui dans la Bible, deuxième épître de Jean, au verset 6, il nous est dit aimer, c'est marcher dans les commandements de Dieu. Curieuse comme définition, non? Et l'amalgame qui est fait entre ces définitions-là et le ressenti que j'ai à l'égard de quelqu'un. Alors quand je ressens que je n'apprécie pas quelqu'un, alors je vais dire je ne l'aime pas. Mais c'est pas ça l'amour de la Bible. Aimer quelqu'un, c'est entrer en relation avec lui, c'est le respecter, c'est l'écouter, c'est le comprendre, c'est l'accompagner, c'est le reprendre. Et donc de ce point de vue-là, aimer ses enfants, c'est toujours possible et toujours productif. Mais quand les parents n'ont pas creusé cette chose-là, ben, ils se sentent souvent dépourvus, désemparés et à côté de la plaque. Et dans un sens, ils ont raison. Mais il faudrait qu'ils reviennent à des notions de base. Qu'est-ce que c'est que l'amour?
Oui, alors, à quoi on peut faire référence pour prendre une décision qui concerne évidemment les enfants? Quelle question peut venir à l'esprit dans ce cas-là?
À quoi est-ce qu'il faut faire référence?
Voilà.
Mais de manière plus précise, quelle est votre question?
Soit dans la vie générale.
Je dirais à la vérité qui résulte de ma vie spirituelle.
Voilà.
Oui. Par exemple, quand je vois l'enfant abîmer une chaise, je lui dis donc tu ne l'abîmes pas. Quand je vois l'enfant se coucher trop tard, je lui dis maintenant tu éteins et tu essayes de t'endormir. Il y a des vérités qui sont spirituellement valables. Après, il faudrait les prendre une par une pour savoir qu'est-ce qui est vrai, bien sûr.
Oui. Alors, une autre question, on revient un peu sur l'amour. Est-ce que je sais dire « je t'aime » aux enfants, même lorsqu'ils sont grands?
Il faudrait savoir le dire.
Ouais. Il faudrait savoir le dire, même ouais. Quand ils sont grands.
Ouais.
Alors, peut-être pas le dire, mais le manifester, peut-être oui. Par un geste, par une attitude, ouais. Par un accueil, une écoute.
Ouais. Et je dirais aussi dire « je t'aime », mais de dire « j'aime ce que tu fais ». J'apprécie bien, j'ai bien noté que ici tu n'as pas répondu tout de suite, ou que là, au contraire, tu as affirmé quelque chose, c'était important de le faire. Hein, savoir reconnaître chez les enfants ce qui est bien fait.
Ce qui est, oui, qui leur est propre. Et donc, une autre question, c'est le temps qu'on consacre aux enfants. Faut-il, évidemment, dans son emploi du temps, même s'il est bousculé, même si papa travaille, si maman travaille, s'il y a plusieurs enfants, est-ce qu'il faut savoir peut-être arrêter une activité pour se dire, voilà, je suis à ta disposition? Ou ça veut dire l'être?
Moi, je dirais que la vie nous apprend à savoir doser, là aussi, et que quand on ne consacre pas assez de temps aux enfants, alors quelque part, il nous le renvoie. Par exemple, les enfants qui viennent toujours vers papa et maman, ah, des bisous, je veux des câlins, mais qui ne s'en lassent jamais et qui deviennent collants, en fait, mais c'est qu'ils n'ont pas assez de câlins, justement.
Oui, donc s'ils les réclament, c'est qu'ils sont en manque.
Et c'est qu'ils sont en manque.
Et donc, il faut faire quelque chose pour organiser, effectivement. Alors, peut-être pas le planifier, mais savoir ça, voir s'arrêter au cours d'une activité domestique pour pouvoir jouer avec eux, les écouter, leur lire une histoire avant d'aller ou se coucher, et ainsi de suite. Oui. Oui. Et alors, et le problème, le gros problème, c'est le problème des sorties. Peut-on dire toujours oui ou toujours non à un adolescent qui veut sortir?
Alors, des fois oui, des fois non.
Alors, quel sera le critère de ce choix?
Il est quand même très... il dépend énormément des circonstances. Mmh. Moi, je dirais que le critère, c'est est-ce que ça, à quelle heure est-ce que ça finit? C'est qui est-ce que tu vas rencontrer? Qu'est-ce que tu vas faire? Et mais ne pas dire ça dans le mode policier, mais plutôt dans le mode collaboratif. Hein, qu'est-ce qui t'intéresse? Avec qui est-ce que tu veux être? Hein, comment est-ce que tu voudrais que ça se passe? Est-ce que tu es conscient, consciente des enjeux, des difficultés? Par exemple, quand une jeune fille de 16-17 ans va à une boum, est-ce qu'elle est consciente qu'on peut mettre dans son verre un petit produit qui va faire qu'on va coucher avec elle sans qu'elle s'en rende compte? Mmh. Hein, voilà, des choses qu'il faut savoir peut-être dire assez clairement.
Il faut informer.
Oui.
Et en fonction de l'information, elle passe ou elle ne passe pas, peut-être prendre une décision, ou peut-être même que la décision viendra de l'adolescent qui juge des risques, voudra peut-être pas aller quelque part, ou faire voilà. Quelque chose.
Oui.
Hein, bien entendu, oui. Alors, est-ce que, disons, on peut dire que la source principale de l'éducation, et je crois que ce serait presque une conclusion, mais je vous laisserai quand même conclure, provient non pas d'une institution humaine, pas obligatoirement de la famille, encore moins d'une école ou d'autre chose, mais de la personne qui a été créée à l'image de Dieu. Donc c'est parce que le père, la mère, l'éducateur a été créé à l'image de Dieu, dont il va s'inspirer, il va pouvoir jouer son rôle, bien entendu, d'éducateur. Là, je crois que c'est bon. Mais je voudrais quand même signaler qu'il ne faut pas non plus oublier que la personne qui est sujet, qui doit être éduquée, elle aussi est à l'image de Dieu. Donc il y a quand même des réserves à faire. Il y a une protection peut-être aussi, un rapport. Et ça, souvent, parfois, les enfants sont maltraités dans ce niveau-là. Le père, la mère peut être chrétien et puis oublier que leurs enfants sont aussi quand même des créatures de Dieu.
On peut faire un peu, c'est pas un raccourci, mais une homophonie, hein, rassembler des expressions qui se ressemblent. J'ai une mauvaise image de moi quand j'ai une mauvaise image de Dieu, parce que je suis créé à son image.
Ah, oui.
Hein? Mmh. Et donc, je lui ressemble. Donc, si j'ai une mauvaise image de Dieu, forcément, si je connais pas bien Dieu, je me connais pas bien.
Mmh.
En fait, et donc je peux mal transmettre cette image à ceux desquels j'ai la responsabilité.
La responsabilité, oui. Bon, alors je crois que...
On pourrait peut-être s'arrêter sur cette...
Voilà, j'ai demandé de conclure, effectivement, parce que c'est un sujet inépuisable.
Et d'où l'importance de bien connaître Dieu et d'avoir une vie spirituelle riche.
Merci beaucoup.